Chapitre 15. Une aventure d'un autre genre. Henri et Franck cheminaient doucement sur la route d'Allemagne, le premier réfléchissant sur le triste fruit qu'il avait retiré de ses voyages. Que gagne-t-on en effet à parcourir le monde? La conviction du peu de ressemblance qui existe entre le bonheur réel et celui qu'enfante notre imagination. Quant à Franck, quoique moins sombre que son maître dans ses réflexions, il trouvait qu'une vie courte et tranquille valait bien le plaisir de courir les champs, et il félicitait ceux dont la destinée est de vivre paisiblement dans les lieux qui les ont vus naître. À quelques lieues de Strasbourg, Henri s'arrêta dans la même forêt où, quelques mois après, le colonel Framberg et Müller en trouvèrent un asile. Désirant se reposer un moment sous son ombrage, il envoya Franck en avant et lui ordonna de l'attendre à la première auberge de Strasbourg. La tranquillité du lieu semblait inviter le voyageur au repos. Henri, qui depuis plusieurs jours voyageait sans s'arrêter, sentit le besoin de céder un moment à la fatigue qui l'accablait. Il s'assit contre un épais buisson ombragé d'un chêne majestueux, et le sommeil ne tarda pas à venir fermer ses paupières. Lorsqu'il se réveilla, le jour commençait à tomber. Il allait se lever pour continuer sa route, quand il entendit une voix de l'autre côté du buisson où il était couché. Il avança doucement la tête et aperçut deux hommes à quelques pas de lui. Leurs figures sinistres engagèrent Henri à ne pas se montrer d'abord, et comme ces deux hommes se croyaient parfaitement seuls, il entendit aisément la conversation suivante. « T'es donc bien sûr que c'est lui ?»« Oui, monsieur, j'en suis certain, et quoiqu'il y ait diablement longtemps que je l'ai vu, sa figure m'a trop frappé pour que je le reconnaisse pas. D'ailleurs, j'ai pris dans l'auberge où il était quelques renseignements sur son compte, et je suis certain de ne pas m'être abusé. Et tu dis qu'il va passer par cette forêt ? Oui, monsieur, il ne peut pas prendre d'autre chemin. Je me suis hâté d'aller vous trouver afin que nous ne laissions pas échapper une aussi belle occasion. Et que penses-tu donc, Stoffard, que nous devions faire ? Parbleu, il n'y a qu'un parti à prendre. C'est de s'en débarrasser afin qu'il ne nous inquiète plus. Ici, Henri sentit son sang bouillonner dans ses veines. Il fut prêt de se jeter sur les deux scélérats qui étaient devant lui, mais il songea que ce ne serait peut-être pas le moyen de sauver leur victime, et il s'efforça de modérer son indignation. « Mais, reprit celui qui paraissait le maître, si nous nous contentions de nous saisir de sa personne et le tenir enfermé, nous serions par là forcés à nous dire ce qu'il a fait de... »« Non, monsieur, interrompit l'autre. « Cela vaudrait rien du tout. D'ailleurs, où l'enfermeriez-vous ? Dans votre maison ? D'un moment à l'autre, on pourrait l'y découvrir, ou bien il n'aurait qu'à se sauver. Cela nous ferait de belles affaires. Non, croyez-moi, dans une circonstance comme celle-ci, il ne faut pas employer de demi-mesure. Une fois qu'il sera mort, vous serez tranquille, car lui seul est à craindre. Bon, tu as raison, Stoffard, et je suis décidé à... » Le bruit du pas d'un cheval interrompit la conversation. Oh, c'est lui, monsieur, dit un des hommes en se levant. Il approche. Préparons-nous à le bien recevoir. Ils se placèrent tous deux derrière des arbres. Henri, de son côté, arma ses pistolets et, rendant grâce au ciel de ce qu'il avait choisi pour être le défenseur d'un infortuné, se tint prêt à tout événement. Au bout de quelques minutes, il aperçut un homme à cheval s'avancer du côté où il était. Il ne faisait pas encore assez nuit pour qu'il ne pût distinguer les traits du voyageur. C'était un homme d'une quarantaine d'années, d'une taille avantageuse, et dont la figure douce mais mélancolique annonçait une âme oppressée sous le poids d'un profond chagrin. Henri sentait son cœur battre avec violence à mesure que l'inconnu s'approchait de lui, et il oubliait, en contemplant ses traits, le danger qui menaçait ses jours. Mais il fut tiré bientôt de là par cet état, par le pourri que firent les deux hommes en courant leurs sabres à la main sur le voyageur, qui, étourdi par cette brusque attaque, n'avait pas eu le temps de prendre ses armes et allait infailliblement succomber si Henri, aussi prompt que l'éclair, ne se fût élancé sur les assassins. Les deux hommes, effrayés par cette subite apparition, lâchent leur victime et ne songent plus qu'à la fuite. Henri tire sur eux ses deux pistolets. L'un des deux scélérats tombe mort, l'autre n'est pas atteint et s'enfuit dans l'intérieur de la forêt. Henri pensa qu'il serait imprudent de le poursuivre et retourna vers celui qui l'avait sauvé. Le voyageur ne savait comment témoigner à son libérateur toute sa reconnaissance. « Mais vous ne me devez rien, monsieur, répondit Henri en venant à votre secours. Je n'ai fait que remplir le devoir d'un galant homme. Et je suis certain qu'à ma place, vous en eussiez fait autant. Mais si vous m'en croyez, nous nous hâterons de quitter cette forêt et de regagner une route fréquentée. Car la nuit devient sombre et peut-être ne serons-nous pas toujours aussi heureux. Je suis de votre avis, monsieur, répondit l'inconnu à Henri. Mais vous êtes à pied, à ce qu'il me paraît. Mais il est vrai, j'ai envoyé mon domestique en avant avec mon cheval, car je comptais arriver ce soir à Strasbourg. Eh bien, montez en croupe derrière moi. De cette manière, nous serons plutôt sortis de la forêt. Henri accepta la proposition de l'inconnu et ils s'éloignèrent au grand galop. Chemin faisant, ils entrèrent dans des détails relatifs à l'événement qui venait d'avoir lieu. « Bon, je ne croyais pas, dit le voyageur à Henri, que la forêt où je devais passer fût infestée par des brigands. « Oh, vous vous trompez, monsieur. En prenant pour tels les gens qui vous ont attaqué, je suis certain, moi, que ce n'étaient pas des voleurs. » Alors Henri raconta comment il avait tout entendu. Pendant son récit, il examina son compagnon et s'aperçut qu'il y prêtait la plus grande attention. « Se pourrait-il ? » s'écria le voyageur, lorsqu'Henri eut fini de parler. « Mais, monsieur, n'avez-vous entendu que cela ?»« Ah, pas davantage, monsieur, mais je présume que cela suffit pour vous mettre sur la voie. »« Eh bien, monsieur, non, vous vous trompez, car je vous assure que je ne comprends rien à ce que vous venez de me dire. Je ne me connais pas d'ennemi capable d'une pareille scélératesse. »« Parbleu, voilà qui est étonnant. » Non, je n'ai jamais nui à personne, et j'ai fait le plus de bien que j'ai pu. Oh, c'est souvent en faisant le bien que l'on s'assure, s'attire la haine des méchants. Oh, vous avez raison, monsieur, et vous m'ouvrez les yeux. Ici, le compagnon de Henri tomba dans une profonde rêverie, et celui-ci n'osa pas se permettre de le questionner. Nos deux voyageurs arrivèrent bientôt sur une route fréquentée, et comme la nuit devenait noire, Henri pensa qu'il ferait bien d'attendre le lendemain pour se rendre à Strasbourg. Ils s'arrêtèrent devant la première auberge. « Bien, vous allez à Strasbourg et moi j'en viens, » dit le voyageur à Henri. « Ah si, puisque nous suivons une route opposée, je vais vous faire mes adieux. »« Quoi, vous ne vous arrêtez pas ici ?» lui répondit Henri. Non, car il me tarde d'arriver à Paris où j'ai une affaire importante à terminer. Mais comme je compte retourner bientôt à Strasbourg, j'espère que j'aurai le plaisir de vous y voir et de faire une connaissance plus intime avec celui qui m'a conservé l'existence. Henri lui répondit qu'il ne comptait pas y faire un long séjour, mais, ajouta-t-il, comme je désire autant que vous que nous vous retrouvions un jour, je vous engage, si le hasard vous conduisait près des lieux que j'habite, à ne pas oublier que vous avez dans Henri de Framberg un ami qui s'estimerait heureux de pouvoir encore vous être utile. « Henri de Framberg ? » s'écria l'inconnu. « Quoi ? Vous seriez le fils du colonel Framberg ?»« Mais sans doute, répondit Henri. Pourquoi cet étonnement ? Connaîtriez-vous mon père ? J'en ai beaucoup entendu parler. » Le bruit de sa bravoure et de ses exploits est venu jusqu'à moi. Eh bien, c'est une raison de plus pour venir au château, et je vous assure que vous y serez bien reçu. L'étranger remercia Henri. Le nom de Framberg l'avait jeté dans un trouble extraordinaire. qui n'échappa pas au regard de notre héros, mais il n'osa lui demander la cause de son agitation, et ils se séparèrent et, en se réitérant les assurances de la plus sincère amitié. Henri entra dans l'auberge où il se fit donner une chambre à part. Là, il réfléchit à l'aventure extraordinaire qui lui était arrivée et à la nouvelle connaissance qu'il avait faite. Malgré la différence d'âge qui existait entre Henri et l'étranger, il se sentait porté à l'aimer comme un frère et regretta d'avoir oublié de lui demander son nom. Il s'endormit en faisant ses réflexions et le lendemain, de bonne heure, il prit la poste et partit pour Strasbourg. Chapitre 16. Il la retrouve. Henri trouva Franck qui l'attendait à l'auberge où il lui avait donné rendez-vous. Franck était inquiet de n'avoir pas vu arriver son maître la veille. Henri lui raconta ce qui lui était arrivé. « Vous conviendrez, monsieur, dit Franck à Henri, que vous attendiez guère à une telle aventure. Oh, je suis sûr que celui que vous avez sauvé a pour vous bien de la reconnaissance. Mais c'est égal, si ça décidait d'être assassiné, il ne l'échappera pas une autre fois. » Henri laissa Franck et sa destinée pour aller se promener dans la ville. Depuis son aventure de la veille, ses sombres pensées s'étaient tout à fait dissipées, et il ne lui restait plus du souvenir de ses voyages et de ses folies que la ferme résolution de mieux se conduire à l'avenir. Tout en faisant ses plans de sagesse, Henri s'aperçut qu'il était sorti de la ville. Il allait retourner sur ses pas lorsqu'il crut entendre crier au secours derrière lui. Il se retourne et aperçoit une jeune femme se débattant avec un soldat qui voulait l'entraîner malgré elle. Il court sur le militaire qui, étant ivre, lâche sa proie, voyant venir quelqu'un, puis va offrir ses services à la jeune dame. Mais comment peindre sa surprise, son ravissement, en reconnaissant sa chère Pauline dans celle qu'il vient de délivrer? « Quoi, c'est vous, mademoiselle? C'est vous, monsieur ?» Ah, voilà tout ce qu'ils purent se dire, tant ils étaient émus l'un et l'autre. Henri contemplait les charmes de son ami, qui s'était encore développé depuis qu'il l'avait vu, et de son côté, Pauline ne pouvait s'empêcher de partager le trouble et le plaisir de Henri. « Ah, monsieur, dit-elle enfin, combien je rends grâce au ciel de ce qu'il vous a envoyé si à propos pour me délivrer du péril que je courais. Monsieur, répondit Henri en soupirant, monsieur, je ne suis donc plus Henri pour vous. Vous m'appeliez ainsi autrefois. Le temps vous a fait oublier ces jours heureux que je passais près de vous. Ah, Pauline, ah, mademoiselle, j'ai donc gémi seul d'une si longue séparation. Et en vous retrouvant, n'aurais-je pas retrouvé le bonheur? Henri, que vous êtes injuste. Mais l'on m'avait tant dit que vous ne m'aimiez pas, que vous m'aviez oublié. Votre longue absence, le peu d'empressement que vous avez mis à savoir où j'étais. Que dites-vous, Pauline? Le ciel m'est témoin que depuis notre séparation, j'ai fait tout ce qui m'était possible pour connaître l'endroit où vous habitiez. Est-il bien vrai, Henri? Oh, j'ai besoin de vous croire. Ce que vous me dites me fait trop de plaisir pour que je veuille en douter. Nos deux amants oubliaient en se revoyant qu'il exista au monde autre chose que leur amour. Pauline fut la première à s'apercevoir qu'il fallait se séparer. Il faut nous quitter, Henri. J'oublie auprès de vous que ma bonne madame Reinstadt m'attend et qu'elle est peut-être inquiète de ma longue absence. Mais où habitez-vous, Pauline? Dans cette maison, vous voyez là-bas, à la porte de la ville. Oui, j'ai été sorti seul pour faire quelques emplettes, car madame Reichstar est malade, et notre vieille domestique ne pouvait pas la quitter. Et votre père? Mon père n'est pas à Strasbourg en ce moment, mais son absence ne doit pas être longue. « Eh bien, qu'est-ce qui m'empêche de me présenter chez vous ?»« Pas ce soir, mon ami, il est trop tard. pour que ma bonne mère vous voie. Mais demain vous viendrez, et nous aurons alors le temps de lui parler. » Henri consentit avec peine à acquitter sa chère Pauline, mais l'espérance du lendemain lui fit reprendre courage. Il reconduisit celle qu'il adorait jusqu'à la porte de son habitation, et ne la quitta qu'avec la permission de la revoir bientôt. Henri retourna à son auberge, le cœur plein de son bonheur. Il ne fut plus question de retourner chez son père. Sa Pauline occupait toutes ses pensées, toutes ses affections. Franck, en apprenant que son maître avait retrouvé sa maîtresse, s'écria « Eh bien, monsieur, c'était bien la peine que nous courussions si loin, chercher une femme qui était si près de nous. Mais ça a été écrit là-haut. » Le lendemain, il faisait à peine jour que Henri était déjà sous les fenêtres de son amante. On était au mois de novembre. Il commençait à faire froid. Henri se promena sous la croisée de sa belle en attendant qu'elle fût éveillée. Mais Pauline, qui probablement n'avait pas beaucoup dormi, entr'ouvrit bientôt sa jalousie. « Quoi, c'est vous, mon ami, de si bonne heure ? Ah, oh, ma chère Pauline, mais pouvais-je dormir loin de vous ? Mais je ne dormais pas non plus, vous le voyez bien, mais c'est égal, il est de trop bonne heure. Monsieur, il faut vous en aller. » « Ah, oh, Pauline, vous ne m'aimez donc pas ?
Mais mon ami, Madame Retsa dort encore.
Et moi, je meurs de froid. »
« Mais vous ne pouvez cependant pas entrer. »
Alors vous aimez mieux que je gèle sous vos fenêtres. »
Méchant, eh bien attendez, je vais descendre.
Pauline ne tarda pas à venir lui ouvrir. Qu'elle parut jolie aux yeux de Henri. Un simple déshabillé du matin couvrait sa taille élégante. Ses cheveux, négligemment retroussés, venaient ombrager un front, siège de la pudeur. Ses yeux, pleins d'une douce langueur, paraissaient craindre de se fixer sur ceux de son amant, tout en elle inspirait l'amour. Comment Henri aurait-il pu ne pas adorer tant de charme? Il resta immobile d'admiration devant celle qui en était l'objet. Pauline rougit de plaisir, devinant bien la cause du trouble de Henri. Quelle est la femme qui ne s'aperçoit pas du sentiment qu'elle inspire? Pauline conduisit Henri dans un petit salon donnant sur le jardin de la maison. Là, ils attendirent le lever de Madame Reichstadt. Le temps ne leur sembla pas long. On a tant de choses à se dire quand on s'aime. Henri raconta à Pauline ses voyages et toutes les aventures qui lui étaient arrivées, en glissant cependant sur celles qui n'étaient pas de nature à être entendues par son amante. Henri aurait bien voulu savoir ce qui était arrivé à Pauline pendant son absence. Où était son père? Quel était le motif de son voyage? Et mille autres choses qui l'auraient mis au fait de l'origine de celle qu'il aimait et de sa situation présente. Mais il n'osa pas la questionner. Il aima mieux attendre que le temps lui eût gagné sa confiance que de paraître à ses yeux curieux et défiant. Pauline s'aperçut enfin que l'heure était venue où celle qui lui donnait lieu de mère avait coutume de se lever pour déjeuner. Elle quitta Henri pour voler auprès de Madame Reichstadt, en lui promettant de revenir bientôt le rechercher. Pendant son absence, celui-ci s'occupa à examiner la demeure de son ami. Tout y était de la plus grande simplicité, et annonçait dans ceux qui l'habitaient plus de bon goût que de richesse. « Bah, dit Henri en lui-même, elle n'est pas heureuse, j'en suis certain. Elle n'a pas assez de confiance en moi pour me faire part de ses chagrins. Mais je saurais bien la forcer à m'en faire la confidence. J'adoucirai ses mots et, sans blesser son orgueil, je trouverai le moyen de partager avec elle des richesses qui n'ont quelque prix à mes yeux que parce qu'elles pourront m'aider à la rendre heureuse. » Ce que Henri appelait « ses richesses », c'était l'argent qu'il avait gagné au jeu à Paris, et qu'on se rappelle qu'il n'avait pas eu le temps de dissiper, puisqu'il en était parti le lendemain. Pauline vint le tirer de ses réflexions en lui annonçant que Mme Richard l'attendait pour déjeuner. Il suivit son ami et trouva la bonne dame assise auprès de son feu. Henri fut vivement frappé du changement que la maladie avait opéré en elle. La pâleur qui couvrait son visage et sa voix presque éteinte lui firent craindre qu'elle n'eût pas longtemps à vivre. Mais il se garda bien de communiquer à Pauline des idées qui n'auraient pu que redoubler son chagrin. Madame Richard fut à Henri l'accueil le plus flatteur et parut charmée de le revoir. Le déjeuner se passa assez gaiement. Henri était auprès de sa chère Pauline. Que lui fallait-il de plus pour être heureux? Quand par hasard son pied rencontrait celui de son amante, quand sa main venait à se poser sur la sienne, et qu'il pouvait lire dans les yeux de sa maîtresse le trouble qu'elle éprouvait, oh alors, il n'aurait pas changé contre tous les biens du monde le bonheur d'être auprès de son ami. Henri obtint sans peine de Madame Richard la permission de venir quelquefois partager sa solitude. Quelquefois, mais cela voulait dire tous les jours. C'était bien ainsi que nos amants l'entendaient. Pauline dit à Henri que depuis son absence, elle avait beaucoup négligé sa musique. Henri lui proposa de lui apporter le soir même une collection des morceaux les plus nouveaux et les plus jolis. Pauline lui serra doucement la main. Madame Richard le remercia d'avance du plaisir qu'il voulait procurer à sa chère fille, et Henri s'en alla en promettant de revenir le soir même apporter à Pauline ce qu'il lui avait promis. Un mois s'écoula pendant lequel Henri passait toutes ses matinées et ses soirées auprès de celle qu'il aimait. L'habitude en était si bien prise que, lorsque, à son heure ordinaire, Henri n'était pas chez Madame Richard, il trouvait sa Pauline dans l'inquiétude et regardant tristement à sa fenêtre si elle ne venait pas arriver. Henri était au comble de ses voeux. Il était aimé de son ami. Pauline n'essayait plus de cacher à Henri tout l'amour qu'elle ressentait pour lui, et quand elle l'aurait voulu, chaque mot, chaque geste, ne décelait-il pas ce qui se passait dans son cœur? Madame Richard elle-même traitait Henri comme son fils et ressentait pour lui la plus tendre amitié. Mais aussi Henri n'était plus ce jeune homme brusque, emporté, libertin, joueur, mauvaise tête. L'amour qu'il éprouvait pour Pauline avait changé tous ses sentiments, car une passion vertueuse peut seule dompter nos autres passions. Henri ne tarda pas cependant à s'apercevoir que sa Pauline était agitée par quelques peines secrètes. Et Madame Richard elle-même paraissait souvent triste et préoccupée. Henri voyait avec chagrin la santé de cette bonne dame décliner de jour en jour. Il entrevoyait pour sa Pauline mille dangers, mille embarras, si celle qui lui tenait lieu de mère venait à mourir. En vain, il pressait son amant de lui avouer ses chagrins, de lui confier ses inquiétudes. Pauline évitait toujours d'aborder une question qui semblait augmenter sa douleur. Un jour que Henri se rendait, selon sa coutume, chez celle qu'il aimait, il fut effrayé de voir la vieille domestique lui ouvrir la porte en pleurant amèrement. « Mais qu'est-il donc arrivé ? » s'écria-t-il aussitôt.
« Ah, monsieur, ma bonne maîtresse est bien mal. Elle a plus, je crois, que peu de moments à vivre. »
Henri vole aussitôt dans la chambre de la malade. Il trouve sa chère Pauline noyée dans les larmes auprès du lit de Madame Richard. Cette dernière, quoique faible et chancelant sur les bords du tombeau, accueille Henri avec un doux sourire et lui adresse ces paroles d'une voix presque éteinte.
« Je vous attendais avec impatience, mon cher Henri. C'est à vous que je remets ma fille chérie. C'est vous que je cherche de la consoler. J'ai lu dans votre âme, j'ai deviné le sentiment que vous éprouvez pour elle. Pauline vous paye de retour. Soyez donc unis et ne vous quittez jamais. »
Henri presse sa Pauline dans ses bras en jurant de ne plus s'en séparer. Son ami n'avait pas la force de lui répondre tant elle était accablée par la douleur. Madame Richard surmonta sa faiblesse et continua en ces termes.
« Vous avez dû être étonné, mon cher Henri, du mystère qui semble envelopper toutes les actions du père de votre ami. Vous ne connaissez pas cet homme vertueux. Quand vous apprendrez ses malheurs, vous cesserez de condamner sa conduite. J'ai chargé ma Pauline de vous instruire de tout. Il est plus temps de vous rien cacher, et c'est en vous seul qu'elle doit mettre toute son espérance. »
Ici, Madame Richard, affaiblie par l'effort qu'elle venait de faire, éprouva une faiblesse qui indiqua qu'elle n'avait plus que quelques instants à vivre. Henri et Pauline l'entourèrent de leurs bras. Elle rouvrit les yeux, prit la main de sa pupille qu'elle plaça dans celle de Henri et s'endormit du sommeil éternel. Henri se hâta d'arracher son ami à cette scène de douleur. Il la prit dans ses bras et la porta dans sa chambre. Là, il ne chercha pas à apaiser ses regrets, mais il pleura avec elle la femme estimable qu'il venait de perdre. C'était la meilleure consolation qu'il pouvait lui offrir. Lorsque quelques jours eurent un peu calmé la douleur de Pauline, Henri se hasarda à lui demander le récit qui lui était promis. Pauline consentit à ce qu'il désirait. Elle l'instruisit de la cause de l'absence de son père et des motifs qui le faisaient si souvent voyager. D'après le récit que lui fit son amante, Henri, sachant que la longue absence de son père était la cause de son inquiétude, résolut de partir pour Paris afin de tâcher d'y découvrir celui auquel il s'intéressait aussi vivement. Il partit donc, après avoir laissé Franck auprès de son ami pour veiller à sa sûreté, et emportant avec lui les vœux les plus ardents de Pauline pour le succès de son voyage. Nous savons que c'est à cette époque que le colonel Framberg et Müller arrivèrent à Strasbourg, espérant y découvrir Henri, qui venait de partir pour Paris, où ils le suivirent. Mais notre jeune homme ne fut pas heureux dans ses recherches. Il parcourut la capitale sans découvrir les traces de celui qu'il cherchait. Là, enfin, de tant de courses inutiles, et pressé par le désir de revoir sa Pauline, il repartit pour Strasbourg, toujours poursuivi par le colonel et Mullern, qui l'auraient infailliblement atteint sans l'accident qui leur arriva dans la forêt. Henri trouva sa Pauline qui l'attendait avec la plus vive impatience. Elle courut au-devant de lui, et dès qu'elle l'aperçut,
« Eh bien, mon ami, lui dit-elle, quelle nouvelle ?»«
Aucune, ma bonne amie. »«
Quoi, mon père ? Ben, je n'ai rien pu découvrir sur son sort. »« Oh, que je suis malheureuse. C'en est donc fait. Je ne le verrai plus. Je n'ai plus personne sur la terre qui prenne pitié d'une malheureuse orpheline. »«
Mais que dis-tu ? » s'écria Henri avec véhémence. Tu n'as plus personne sur la terre. Et ne suis-je pas ton amant, ton époux ?
Toi, mon cher Henri, j'ai réfléchi depuis ton absence, et j'ai pensé que je ne devais pas prétendre à ce bonheur. Moi, orpheline, sans nom, sans fortune, devenir l'épouse du comte de Framberg, oh, je ne vois que trop la distance qui nous sépare.
Est-ce bien toi que j'entends, Pauline ? Mais je puis d'un seul mot te prouver que tu t'abuses. Dis-moi, si le hasard t'avait fait plus riche que moi, m'aurais-tu pour cela abandonné ?
Mais mon ami, c'est bien différent.
Non, Pauline, je ne serais pas assez orgueilleux pour préférer les richesses à la vertu, à la beauté. Tu seras mon épouse. La bonne Madame Richard a béni au serment, et tu n'as plus le droit de t'opposer à mon bonheur.
Que pouvait répondre Pauline ? Elle adorait Henri.
Elle cessa de résister à ses prières et elle consentit enfin à devenir son épouse. Dès que Henri eut obtenu ce consentement, Il s'occupa de hâter le jour de son hymen. Il brûlait du désir de présenter sa Pauline au colonel. « Dès que mon père te verra, lui disait-il, il ne pourra qu'approuver mon choix. »
« Mais s'il en était autrement, mon ami, s'il allait briser nos liens. »
« Non, ma Pauline, tu ne connais pas mon père. Il est brusque, mais bon, sensible. D'ailleurs, il faut que je le voie pour l'aimer. » Et Pauline souriait et commençait à espérer. Henri fit aussitôt les préparatifs de son mariage. Franck fut chargé de chercher un notaire et un chapelain. Et en attendant, Henri obtint de Pauline la permission de ne plus la quitter. Il fit enlever ses effets de son hôtel et occupa l'appartement de Madame Reichstadt. Franck exécuta ponctuellement les ordres de son maître. Et un soir, que Henri était assis auprès de sa Pauline, il va les avertir que le notaire viendrait le lendemain matin leur apporter leur contrat. Henri sauta de joie à cette nouvelle. Pauline partageait ses transports. Franck jouissait du bonheur de son maître. « Ma foi, monsieur, lui dit-il, oh, j'étais si content d'avoir terminé ma commission que je suis entré dans un café boire une bouteille de bière pour célébrer votre prochain mariage. » Henri embrassa Franck, embrassa la vieille domestique, où il aurait embrassé tout le monde, dans le délire qu'il transportait. Pauline prenait part à son bonheur, et ils se séparèrent en songeant déjà au lendemain. « Pauvres enfants, vous allez vous livrer au sommeil en vous forgeant mille chimères pour l'avenir. » Et vous ne songez pas, comme Franck, combien la destinée est bizarre, et que c'est au moment où nous y pensons le moins qu'elle nous frappe de ses plus rudes coups. Chapitre 17. Qui s'en serait douté? Henri s'éveilla dès le point du jour, un grand plaisir en matinale. Cependant, comme sa Pauline dormait encore, il descendit au jardin en attendant son réveil. Avec quelle impatience il comptait les quarts d'heure, les minutes. Il lui semblait que le temps aurait dû doubler sa marche pour seconder ses désirs. Enfin, Pauline, qui probablement n'avait pas beaucoup plus dormi que lui, vint l'engager à monter déjeuner en attendant que le notaire arrivât. Henri la suit. Il s'assit auprès d'elle, ils forment ensemble leur projet pour l'avenir. Henri lui donne déjà le nom de son épouse. On frappe fortement à la porte. « Oh, c'est lui, c'est le notaire !» s'écria Henri. « Franck, va lui ouvrir !» Franck court à la porte. Henri entend monter. Le cœur lui bat de joie. La porte s'ouvre. Il regarde. Oh, surprise! Au lieu du notaire, c'est Mulherne qu'il voit entrer dans l'appartement. Oh, oh, je vous trouve enfin, monsieur, dit Mulherne sans faire attention à Pauline. Sacré mille bombes! Mais vous faites diablement courir après vous! Oh, comment, mais c'est toi, Mulherne? Répond Henri en cherchant à se remettre. Oh, oui, monsieur, c'est moi! Oh, « m'attendiez pas, j'en suis sûr. »« Quel est cet homme, mon ami ?» dit Pauline à Henri en le prenant à part. « Oh, c'est un brave militaire qui m'aime beaucoup. »« Oh, oh !» dit Muller en se retournant et en apercevant Pauline. « C'est donc là, seul. Oh, elle est ma foi jolie, j'en conviens. » Pauline devint rouge jusqu'au blanc des yeux. Et Henri, qui désirait beaucoup terminer cette scène, la pria de passer un moment chez elle et de le laisser seul avec Mulherne. Pauline y consentit et s'éloigna, encore tout étonnée des manières de celui qu'elle voyait pour la première fois. « Maintenant que nous sommes seuls, monsieur, » dit Mulherne à Henri, « j'espère que vous allez m'expliquer un peu votre nouvelle conduite. »« Mais comment se porte mon père avant tout ?»« fort bien, si ce n'est qu'il a manqué de se tuer en courant après vous. » « Comment donc ?»« Ben, c'est pas cela qu'il en est question. Dites-moi, monsieur, Que faites-vous dans cette maison? Quelle est cette femme que je viens de voir tout à l'heure avec vous?
Cette femme, c'est la mienne.
La vôtre?
Oui, du moins à peu près, car elle le sera tout à l'heure.
Bon, je vois qu'elle ne l'est pas encore.
Mais prétendais-tu y mettre obstacle, Mulherne?
C'est possible, monsieur.
Oh, je t'avertis alors que tu auras fait une démarche inutile, car rien au monde ne pourra m'en séparer.
Voilà une belle conduite, monsieur. Dites-moi, est-ce à votre âge que l'on doit se marier sans daigner consulter ses parents?
Mais dis-moi toi-même, ma Pauline n'est-elle pas charmante?
Oh, pour jolie, c'est vrai, je conviens qu'elle est fort bien. Mais il y a de jolies femmes qui n'en sont pas meilleurs sujets pour ça.
Ah, garde-toi, Mulherne, d'outrager celle que j'aime. Elle est aussi vertueuse que belle.
Eh bien, quand elle serait vertueuse, ce qui est douteux, mais ce qui n'est pas impossible. Est-ce une raison que vous vous épousiez la première venue? Une femme dont vous ignorez la naissance?
Mais tu te trompes, Mulherne. Je la connais. Elle m'a tout appris. Je connais son père, ses malheurs.
Ouais, bamboche que tout cela, monsieur.
Non, Mulherne, ma Pauline ne connaît pas le mensonge, elle m'a dit la vérité.
Eh bien, voyons donc ce récit merveilleux.
Bien, je vais t'apprendre tout ce qu'elle m'a dit. Le père de ma Pauline est français.
Français. Le nom de Christiane n'est donc pas le sien?
Non, mon ami. C'est un nom supposé que les circonstances l'avaient forcé de prendre.
Et au fait, comment se nomme-t-il?
Dorméville.
Dorméville!
S'écrie Mulherne, et il reste frappé d'étonnement. Qu'as-tu donc? Lui dit Henri.
Oh non, c'est rien, continuez, je vous écoute.
Henri reprit son discours en ces termes. Bon, ben, tu sauras donc que le père de mon ami, étant entré au service, eut à l'âge de 20 ans une querelle avec un autre officier de son régiment. Il se battit en duel et eut le malheur de tuer son adversaire. Ce fut là la première cause de toutes ses infortunes. La famille du jeune homme qui l'avait tué était riche et puissante. Dorméville fut obligé de fuir sa patrie pour échapper à l'arrêt qui le condamnait à perdre la vie. Il passa en Allemagne dans l'intention d'y prendre du service, après s'être arrêté quelque temps dans les domaines du baron de Fribourg.
Du baron de Fribourg?
Oui, mon ami, là, dit-on, vu ma mère.
Ha ha!
Lui se rendit à Vienne et entra dans les troupes de l'empereur. L'armée était sur le point de se mettre en campagne. Dorméville alla combattre les Russes. Mais à la première affaire, il reçut un coup de feu au travers du corps et fut laissé pour mort sur le champ de bataille. Cependant, un homme, plus humain que les autres, s'aperçut qu'il respirait encore. Cet homme était un pauvre paysan que le hasard avait conduit sur les lieux où l'on s'était battu. Il releva Dorméville et l'emporta dans sa chaumière, où il parvint à le rappeler à la vie. Dorméville resta plus d'un an chez ce bon paysan. Et ce ne fut qu'au bout de ce temps que ses blessures, parfaitement cicatrisées, lui permirent de chercher à regagner le corps dans lequel il servait. Mais pendant sa longue maladie, la victoire avait été peu favorable aux Autrichiens, et au moment où il voulut rejoindre l'armée, les Russes étaient les maîtres du petit village dans lequel il était caché, en sorte qu'il ne pouvait essayer d'en sortir sans crainte d'être reconnu comme ennemi et mis à mort par les Russes, qui ne faisait pas de prisonniers. Et alors Dorméville se décida à attendre des circonstances plus favorables. Il se déguisa en simple villageois et fut obligé de travailler à la terre pour soutenir sa triste existence. Et c'est à cette époque qu'il fit connaissance de la mère de ma chère Pauline. Dorméville n'a pas appris à sa fille ce qu'elle était ni comment il l'a connue. Tout ce qu'il lui a dit, c'est que son épouse mourut en lui donnant le jour. Dorméville éleva sa fille comme il put, attendant avec impatience le moment de repasser en Autriche. Enfin, le sort lui devint plus favorable, les Russes furent battus. Dorméville rejoignit l'armée. Sa fille, cependant, était l'objet de toute sa sollicitude. Il ne savait pas à qui confier ce précieux dépôt. Lorsque le hasard lui fit connaître Madame Reichstadt, cette bonne dame venait de perdre son fils à l'armée. Elle était accablée de douleur. Dorméville lui proposa de tenir lieu de mère à sa petite Pauline, qui avait alors 4 ans. Madame Reichstadt y consentit avec joie, et comme le théâtre de la guerre lui rappelait sans cesse la perte qu'elle venait de faire, elle partit avec l'enfant pour aller habiter une petite maison qu'elle avait auprès d'Offenbourg, et Dorméville lui promit d'aller l'y rejoindre dès que son devoir le lui permettrait. Et ce fut là, mon cher Müller, dans cette jolie maison où je t'ai conduit une fois, que ma Pauline passa sa jeunesse sous les yeux de Madame Reichstadt, qu'il aimait comme sa fille. Dorméville venait de temps à autre passer auprès d'elle le temps qu'il lui laissait son état. Sa valeur lui avait fait obtenir le grade de capitaine. N'étant pas ambitieux, il ne désirait rien de plus. Tu sais, mon cher Müller, de quelle manière je fis la connaissance de Pauline. Oui, je le sais. Je voudrais que le diable m'eût étouffé le jour où vous fûtes assez bête pour vous laisser aller seul. Mais continuez. Eh bien, mon ami, à cette époque, Dorméville, tourmenté du désir de revoir sa patrie, avait formé le projet de rentrer en France. Pauline ne voulut pas quitter son père et Madame Reichstadt consentit à les accompagner. Ils partirent donc tous les trois pour Strasbourg et vinrent se loger dans la maison où nous sommes maintenant. Ils y vécurent assez tranquilles pendant 18 mois, mais au bout de ce temps, Dorméville, voulant reprendre son véritable nom afin de pouvoir tirer sa Pauline de la solitude dans laquelle il vivait, se décida à partir pour Paris, espérant faire casser l'arrêt injuste qui le condamnait à mort. Et c'est depuis mon absence que le hasard, ou ma bonne étoile, oh dites plutôt l'enfer, m'a fait découvrir ma Pauline. Notre séparation n'avait fait qu'augmenter notre amour. Elle a fait là une belle chose. La bonne Madame Reichstadt a béni notre union. Bon, les vieilles dames font toujours des sottises. Et nous nous sommes livrés sans réserve aux penchants qui nous entraînent l'un vers l'autre. Cependant, le ciel enleva cette bonne dame qui tenait lieu de mère à ma Pauline. Depuis longtemps, elle ne recevait pas de nouvelles de son père et elle était dans la plus grande inquiétude sur son sort. J'ai couru à Paris dans l'espoir de le retrouver, mais j'ai inutilement fait toutes les recherches possibles. Et puisque le destin la prive de ce dernier appui, c'est à moi, mon cher Müller, à lui en servir. Je vais être son époux. Ma Pauline m'a donné sa foi, elle a reçu mes serments. Je ne puis croire que mon père, si bon, si sensible, puisse blâmer le choix que j'ai fait. Müller resta quelque temps absorbé dans ses réflexions. Henri, étonné de ce long silence, allait lui en demander la cause lorsque Müller lui dit « Bien, j'en suis fâché, mon cher Henri. Je vais vous affliger, mais il n'y a point de moyen de capituler. Il faut renoncer à ce mariage. » « Que dis-tu, Müller? Renoncer à ce mariage ?»« Oui, vous dis-je, et me suivre à l'instant loin de cette maison. »« Tu crois, Müller, que je vais t'obéir ?»« Mais je l'espère. »« Non, eh bien, détrompe-toi, c'est pas un feu passager, c'est une passion véritable qui m'unit à ma Pauline, et aucune puissance sur la terre ne serait capable de m'en séparer. »« Allons !» dit Müller en lui-même. Je vois qu'il faut lâcher le grand mot. Il s'approche de Henri en lui prenant la main. Mon cher Henri, armez-vous de courage. Je vois bien qu'il faut vous dévoiler un mystère que j'aurais voulu vous cacher à jamais. Mais que veux-tu dire? Pauline est votre sœur. Grand Dieu! Se pourrait-il? Mais non, tu t'amuses, Muller, tu veux me tromper moi-même. Non, mon cher Henri, je vous ai dit la vérité. Celle que vous aimez est votre sœur. Car le colonel Framberg n'est pas votre père. C'est à Dorméville que vous devez le jour. Henri tombe anéanti sur une chaise. Et Muller lui raconte en détail tout ce qu'il sait sur sa naissance et la conduite noble et généreuse du colonel Framberg. Henri écoute en silence le récit de Muller. Une douleur muette, un abattement profond ont succédé à ces transports violents. Muller souffre presque autant que lui de le voir dans cet état. Allons, lui dit-il, soyez homme, mon cher Henri. Ne vous laissez pas abattre par les événements et montrez des sentiments plus dignes de celui qui vous a élevé. Les larmes ne servent à rien dans de telles circonstances. C'est du caractère qu'il faut. D'abord, vous devez me suivre et quitter ces lieux. Je te suivrai, Muller. Mais dis-moi, que deviendra-t-elle? Soyez tranquille, je sais ce que j'ai à faire. Croyez-vous d'ailleurs que le colonel Framberg, après vous avoir servi de père pendant 19 ans, laissera votre sœur seule dans le monde, exposée à la merci des événements? Non, monsieur, rendez-lui plus de justice. Il vous aime trop pour ne pas l'aimer aussi. Ah, Mulan, tu ranimes mon courage. Mais qui se chargera d'apprendre à ma chère Pauline les liens qui nous unissaient? Qui est parbleu? Ce sera moi, je vais le faire tout de suite. Car dans ces sortes de crises, plus on diffère, plus on envenime la blessure. Mais avant tout, monsieur, vous allez partir de cette maison. Sans la voir? Oui, monsieur, sans la voir. Parbleu, à quoi cela vous avancerait-il? À augmenter votre désespoir, et ce n'est pas la peine. Mais où vais-je aller, Mulherne? N'importe où, vous y serez toujours mieux qu'ici. D'ailleurs, je vais vous conduire, je ne veux pas vous laisser seul dans cet état. Ensuite, je reviendrai moi-même ici, et mille tonnerres, j'espère bien que dans 2 heures, tout sera arrangé. Muller entraîne Henri plutôt qu'il ne le conduit hors de la maison. Henri lève les yeux sur cette demeure qui renferme ce qu'il a de plus cher au monde et sent son cœur se briser à chaque pas qu'il éloigne de son ami. Le bon hussard le mène chez la tante de Jeanneton et le recommande aux soins de la bonne femme. Mais Henri n'était pas en état de s'apercevoir de ce qui se passait autour de lui. Ensuite, Muller reprend le chemin de la demeure de Pauline, en s'efforçant d'étouffer au fond de son cœur les sentiments qui l'agitaient. Pauline attendait avec inquiétude le retour de Henri, qu'elle croyait toujours avec Mulherne dans la maison. Un secret pressentiment semblait l'avertir de ce qui se passait. Et lorsqu'elle vit Mulherne entrer seule dans la chambre, elle sentit ses genoux fléchir et une pâleur mortelle couvrit son visage. Mulherne s'avança lentement, ne sachant comment lui apprendre le départ de son amant. Je viens, lui dit-il, vous faire les adieux de Henri. Que dites-vous, monsieur? Il est parti? Oui, mademoiselle. Pour longtemps? Oh, je le crois. Et sans me voir? Il le fallait. Grand Dieu, il ne m'aime donc plus? Et Pauline tombe sans connaissance dans les bras de Muller. Le bon hussard la pose doucement sur un ottomane. Après qu'elle eut repris ses sens, ses larmes coulèrent en abondance et elle s'écria avec le sentiment de la douleur la plus vive: Il ne m'aime plus! Et si, morbleu, il vous aime, mademoiselle. Et c'est justement pour cela que je l'ai forcé à partir. Quoi, monsieur, c'est vous? Oui, mademoiselle. Vous me détestez, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez tort. Je n'ai fait que mon devoir. Il fallait rompre votre mariage. C'est pourquoi cela, monsieur?
Parce que, mademoiselle, il n'est pas dans l'usage qu'un frère épouse sa sœur.
Que dites-vous? Henri serait mon frère?
Oui, mademoiselle. Henri n'est pas le fils du colonel Framberg, comme il le croyait jusqu'à ce moment, mais bien celui du capitaine d'Orméville. Et Müller ne répéta à Pauline ce qu'il avait dit à Henri. Pauline l'écoute en silence, n'interrompant ce récit que par ses sanglots. Quand Müller l'eut achevé, il se promena à grands pas dans la chambre, en jurant entre ses dents et en essuyant ses larmes. La vue de la douleur de Pauline lui fendait le cœur. « Homme mille bombes, disait-il par moments. Si j'étais pape, comme je leur donnerais bien vite une dispense pour se marier. Mais je ne le suis pas, ni mon colonel non plus. Ainsi, morbleu, traîne à vos pleurs. N'ayons pas le cœur comme une pomme cuite et tâchons d'arranger les choses le mieux possible. Mademoiselle, dit-il en s'approchant de Pauline, il faut prendre votre parti. Je sais bien, cela n'est pas aisé, mais où serait le mérite de vaincre ses passions s'il n'en coûtait rien pour cela?
Mais monsieur, est-ce que je ne le verrai plus?
Si, mademoiselle, vous le reverrez. Mais lorsque le temps aura calmé dans vos cœurs une passion criminelle, et lorsque l'amitié aura remplacé un amour sans espoir.
Vous avez raison, monsieur. Il fallait nous séparer, mais hélas, que vais-je devenir sans lui? Je n'ai plus d'amis, de protecteurs.
Non, vous vous trompez, mademoiselle. Vous en aurez un qui vous tiendra lieu de tout.
Mais qui donc, monsieur?
Celui qui a élevé votre frère, qu'il aime comme son fils. Croyez-vous, mademoiselle, que le colonel Framberg vous abandonnera?
Mais je n'irai jamais, monsieur, mendier les secours de personne.
Oh, voilà un orgueil fort déplacé, mademoiselle. Et vous allez partir tout à l'heure pour le château de Framberg.
Moi, monsieur?
Oui, vous, mademoiselle.
Et à quel titre, monsieur?
Mais vous l'avez donc déjà oublié? C'est comme sœur de Henri que vous irez. Croyez-vous, mademoiselle, que nous vous laisserons seuls dans le monde quand votre frère jouira de titres et de richesses qu'il doit partager avec vous? Non, c'est une chose décidée. Vous allez partir pour le château. D'ailleurs, cela rendra la tranquillité à votre frère.
Mais monsieur...
Quoi, mademoiselle?
Si le colonel Framberg ne m'aime pas...
Oh, il vous aimera, mademoiselle, j'en suis sûr. Mais si...
Je ne...
Oh, j'entends. Si vous ne l'aimiez pas, vous... Diable, vous seriez bien difficile. Un homme qui a fait 20 campagnes avec honneur, un homme dont le nom seul faisait trembler les ennemis, un homme, enfin, qui a élevé, adopté et chéri votre frère comme son fils.
Oh, je l'aimerais, monsieur.
Oui, ventre bleu, vous l'aimerez, et tout ira bien, je vous en réponds. Lorsque Müller n'avait pris une résolution, il fallait qu'il l'exécutât promptement. Aussi engagea-t-il Pauline à faire sur le champ un paquet de ce qui lui était nécessaire, et à se tenir prête à partir dans une heure.
Mais monsieur, lui dit Pauline, et ma vieille domestique,
vous l'emmènerez avec vous, mademoiselle.
Mais monsieur, je ne connais pas le chemin du château.
Eh morbleu, mademoiselle, prenez-vous pour un enfant. Croyez-vous que je vais vous y envoyer seul? Franck vous y conduira.
Franck, le domestique de mon frère?
Oui, le domestique de votre frère. Ainsi voilà toutes les difficultés levées. Je vais m'occuper de la chaise de poste et ce soir vous serez bien loin de Strasbourg.
Et bien loin de Henri, pensait Pauline en regardant Müller s'éloigner.
Cependant, elle trouvait un charme secret à aller habiter l'endroit où celui qu'elle aimait avait été élevé. Le château de Framberg lui aurait paru un séjour délicieux si elle y avait été avec lui. Müller, après avoir quitté Pauline, fut trouvé Franck et lui apprit ce qu'il avait à faire. Franck, qui était devant Müller comme un écolier devant son précepteur, lui promit de remplir fidèlement ses intentions.
Müller, après avoir retenu la chaise de poste, pensa qu'il était temps d'écrire à son colonel et de lui raconter tous les événements qui venaient de se passer. Jusqu'alors, la rapidité du temps ne lui avait pas permis de le faire. Il prit donc la plume et écrivit la lettre suivante. « Mon colonel, j'ai enfin découvert notre jeune homme, et je me vante que ce n'est pas sans peine. Mais il était urgent que j'arrivasse. 1000 bombes, 1 heure plus tard, il n'était plus temps, et la petite était... Mais j'étais là, mon colonel, j'ai arrangé cela le mieux du monde. Oh, il sait tout, mon colonel, il sait tout. Il a bien fallu le lui apprendre, car la petite est sa sœur. Et si je ne lui avais pas tout dit, je vous assure, mon colonel, qu'un régiment de hussards ne serait pas venu à bout de les séparer. J'envoie la petite au château de Framberg, et je vais vous amener Henri. Ils sont tous les deux au désespoir et pleurent de manière à attendrir un boulet de 48. Vous voyez, mon colonel, que tout va bien, et j'espère que vous approuverez la conduite que j'ai tenue. Je suis, mon colonel, votre fidèle soldat et serviteur, Mullern. Mullern, après avoir cacheté cette épître, courte et énergique, l'envoya au colonel Framberg en recommandant à son messager de faire diligence et d'avertir le colonel de sa prochaine arrivée. Cette affaire une fois terminée, il retourna vers Pauline afin de hâter son départ. Pauline, le cœur serré, attendait l'instant où Mullern devait l'éloigner de ce qu'elle avait de plus cher. Mais notre hussard avait pris un tel ascendant sur elle que dès qu'elle le vit arriver, elle se leva en silence et se disposa à partir. Mullern la conduisit dans la chaise de poste avec sa vieille domestique et lui serra la main avec force. « Du courage !» lui dit-il. « Quand on a autant de résignation dans le malheur, on en reçoit tôt ou tard la récompense. » Ensuite, se tournant vers Franck, il lui ordonna de fouetter les chevaux et la chaise de poste s'éloigna avec rapidité.